Bonjour Vincent, je suis super content de vous avoir. Sincèrement, j'ai écouté énormément de vos vidéos et je trouve que vous êtes quelqu'un de super inspirant et qu'il faut absolument, absolument vous écouter pour tout professionnel du marketing, voire quelqu'un qui est simplement un simple citoyen pour anticiper l'avenir. Alors, ce que je vous demanderais, c'est juste de vous présenter en quelques mots, puisque vous avez écrit plusieurs livres et fait pas mal d'interviews. Vous êtes aussi créateur d'une association que vous avez montée il y a plusieurs années, qui pour moi est une association de référence avec des personnes qui comptent. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter donc, pour les gens qui ne vous connaissent pas encore ?
Merci Fred, merci pour cette invitation. En préambule, effectivement, on en parlait juste avant, le marketing est un monde que je connais mal, qui n'est pas ma culture, peut-être même assez éloigné de mon quotidien et de mes appétences. Mais je suis ravi de cet entretien. On doit effectivement tous discuter ensemble de cet avenir qui promet d'être contrariant. Mon parcours, très résumé, j'ai une formation initiale de psychologue clinicien, dont je n'ai pas fait mon métier. Et j'ai ensuite fait diverses professions. J'ai travaillé dans le bâtiment en tant que technicien cordiste. J'ai travaillé un tout petit peu dans l'immobilier. J'ai fait quelques collaborations pour des enquêtes épidémiologiques pour la santé des cordistes, sur la santé des cordistes. Voilà. Et puis, en parallèle de ce parcours professionnel, j'ai écrit plusieurs livres. Tous s'intéressent à la grande question de l'existence. Et très rapidement, moi, je me suis intéressé à l'existence de l'humanité, ce qu'elle avait de singulier, qu'est-ce qui faisait qu'elle était différente des autres espèces. Et je me suis interrogé sur l'éventuel lien entre ce qu'elle est particulièrement et un type de rapport qu'elle aurait avec son milieu depuis qu'elle a commencé à être humaine. Donc voilà, je questionne l'idée d'une nature humaine, je sais que c'est un sujet délicat. Mais j'envisage une théorie écologique de l'esprit, c'est-à-dire que nous aurions acquis des capacités particulières parce que nous aurions eu un rapport particulier à notre milieu, qui donc nous interroge beaucoup aujourd'hui, parce que c'est peut-être cet héritage-là dont nous devons faire quelque chose, et nous sommes bien embarrassés. On est traversé par toute une histoire, un héritage culturel, personnel, on a tous un rapport personnel au milieu, et puis bien sûr biologique, nous avons un cerveau, des mains, des capacités à manipuler les outils qui sont aussi hérités biologiquement, et tout ça fait que nous avons encore aujourd'hui, et peut-être même de plus en plus, des difficultés à articuler tout ça pour résoudre notre problème écologique.
D'accord. Bah justement, on parle de problèmes écologiques dans le livre en fait que je vais sortir très prochainement. J'ai un parti pris qui est la décroissance et la déconsommation. Moi, je suis pas mal au fait avec toutes les vidéos que j'ai regardées sur vous et sur d'autres acteurs. Est-ce que vous pourriez nous rappeler très rapidement pour ce que c'est la décroissance, déconsommation, pourquoi ça va arriver et pourquoi en fait un marketeur ou un entrepreneur doit absolument en prendre en compte, même s'il n'y croit pas? Au moins d'anticiper le sujet, parce que je pense que le rôle d'un dirigeant d'entreprise ou d'un marketeur, c'est d'anticiper le futur.
Et bien, donc, ce que j'évoque dans le dernier livre que j'ai écrit, qui traite de l'énergie, de la transition énergétique, qui s'appelle « L'énergie du déni », pour envisager l'avenir, il faut regarder deux caractéristiques du réel, sa forme et sa nature. Sa forme, elle est par définition imprédictible. Il n'est impossible pour les humains de savoir comment va se dérouler l'avenir sur le plan écologique, politique, économique, quels sont les choix, les arbitrages que nous allons opérer, comment nous allons prendre des décisions dans un monde qui sera différent. Ça, c'est imprédictible. En grain fin, on peut éventuellement dresser des grandes trajectoires, mais on va dire le politique, ce qui anime la complexité des sociétés humaines, c'est pas prédictible en soi. En revanche, donc ça, c'est la forme du monde. La nature du monde, elle est déterministe au sens physique du terme, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des lois qui régissent l'organisation des interactions entre tous les objets de l'univers. Ces lois, ce sont les grands principes de l'énergie essentiellement, la thermodynamique en général, les premiers et seconds principes de la thermodynamique, que je ne vais pas rappeler ici, mais en tout cas, il y a des choses qui sont en quelque sorte préécrites, c'est-à-dire que toute espèce, tout système complexe, tout système dissipatif, aussi complexe soit-il, dès lors qu'il manque d'énergie, et d'autant plus s'il en manque progressivement, de plus en plus, va de toute façon se décomplexifier, perdre en organisation, perdre en ordre, pour reprendre un autre terme. Ça, c'est notre perspective sûre et certaine, parce que les lois principes de l'énergie font qu'il est impossible, c'est pas moi qui l'ai dit, mais de se développer à l'infini dans un monde fini. Le monde dans lequel on vit est fini, donc il est déterminé que notre avenir soit à la contrainte énergétique. Ça, c'est une chose sûre. Voilà. Alors, la question, c'était la décroissance, qu'est-ce que c'est ? Alors,
Mais surtout, juste avant, c'est quel est le temps ou la perspective ? Parce que on parle souvent de 2030, 2050. À votre avis, quand est-ce que cette décroissance va commencer et quand est-ce qu'on va véritablement avoir des gros impacts ? Parce que là, on commence un peu à toucher du doigt, mais quand on va rentrer dans le dur, en fait ?
Cette question-là relève de la première façon qu'on a d'aborder l'avenir, c'est la forme du monde. Cette forme-là, c'est-à-dire combien il reste de réserves, combien il reste de ressources dans les réserves, combien on est capable de les exploiter, comment les choix politiques vont influencer l'exploitation des ressources. Ça, c'est pas prédictible. Donc, on peut donner des périodes à partir desquelles, on peut se dire, les probabilités augmentent qu'on passe un pic pétrolier ou un pic hydrocarbures ou un pic toute ressource. Voilà, on ne peut fonctionner qu'en probabilité, on ne peut pas dater la survenue d'un pic ou d'un plateau, etc. On peut quand même s'appuyer sur les mesures faites au quotidien et on sait déjà que depuis plusieurs décennies, on extrait du sol des produits de moins bonne qualité, en charbon par exemple. Donc le taux de retour énergétique, ce sont les grands paramètres qui permettent d'estimer de l'avenir des sociétés. Bon, tout ça c'est contrarié, on voit déjà que ça chaote. Nos sociétés sont plus aussi fortes et puissantes en termes sur plan économique qu'elles n'étaient pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà, mais donc cet avenir-là n'est pas prédictible, mais il est certain, c'est-à-dire qu'il est sûr qu'à un moment donné, on va passer un pic et qu'ensuite, nous aurons de moins en moins de ressources. Quand ? C'est difficile à dire. On s'approche, clairement, on s'approche d'une date où vraiment la contrainte va se faire sentir, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est suffisamment précis, je ne pourrais pas l'être plus. En revanche, ce qui est très important parce qu'on l'entend de plus en plus, ça n'est pas parce que ce n'est pas prédictible qu'il n'y aura pas de pic. Ça, c'est la différence entre la forme du monde qu'on ne peut pas connaître et la nature du monde qui, elle, est irrévocable. On n'a pas trouvé de moyen d'agrandir la planète Terre. Donc, il y aura forcément un moment à partir duquel on va avoir de moins en moins de matière et d'énergie à disposition.
Ouais, et c'est vrai qu'on parle souvent du pic pétrolier conventionnel en 2008 et le pétrologiste Shale Oil qui continue encore à donner un petit peu des choses en plus. La crise énergétique en Russie, ça a permis de... Enfin, ce sont des éléments clés. En tout cas, merci pour ces petites précisions. C'est vrai que le dire quand est-ce qu'il va y avoir cette courbe qui va s'inverser et se réduire, c'est vrai que c'est pas facile à répondre. Alors, mon autre point... Ouais, vas-y.
Non, mais et en plus, ce sera très certainement mosaïque, c'est-à-dire que tous les pays ne seront pas confrontés en même temps au passage de leur apex économique. Voilà.
Alors, justement, là, quand ça arrivera ou quand c'est arrivé, ou vous sentez là, si on est déjà en cours, on va arriver sur un phénomène de décroissance ou de déconsommation. Est-ce que vous pourriez juste repréciser ce que c'est ? Parce que nous, quand on a écrit le livre, ce terme de décroissance n'était pas facile à. Qui a l'air pourtant simple à dire, n'est pas si simple à expliquer, et il y a plusieurs points de vue. Et donc, on a vu pourquoi ça arriverait, mais qu'est-ce que c'est pour vous la décroissance ou déconsommation ?
Pour moi, ce sont essentiellement des qualificatifs de récits et donc il n'y en a pas de définition univoque et surtout, ce ne sont que des termes, à mon sens, qui servent à nous rassurer sur notre capacité à maîtriser l'avenir qu'on sait imprédictible. Et la décroissance, moi, je la vois plutôt comme le surgissement des contraintes à l'organisation de nos sociétés. Donc la décroissance, c'est non seulement la fin de l'accroissement de nos capacités d'agir, au sens large, c'est-à-dire économique, matériel, physique, confort, etc. Non seulement la fin de la croissance, mais aussi le déclin global, pendant un temps mosaïque, mais au bout d'un moment pour tout le monde, le déclin global des capacités d'agir, pour prendre un terme plus issu de la théorie de l'évolution, c'est le déclin global de nos capacités d'emprise sur le milieu et de nos capacités d'obtention d'avantages. Il faut bien comprendre que notre espèce, elle est avant tout une espèce tout à fait comparable aux autres primates ou aux autres membres du genre Homo, les autres espèces du genre Homo. Et c'est grâce au développement de techniques, nos capacités à prendre de l'énergie et des ressources dans notre milieu, en dérégulant l'exploitation des ressources du milieu, que nous avons acquis des avantages adaptatifs. Ça, on le met souvent de côté dans le débat, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, nous sommes un ensemble d'êtres humains qui appartiennent à l'espèce humaine qui est avantagée sur le plan de l'évolution. Et c'est pour ça que depuis très 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 longtemps, cet avantage sur le plan évolutif a eu des impacts, des dégâts, des effets sur les autres êtres vivants, sur les écosystèmes. Donc, il faut bien voir que ce qui risque d'arriver maintenant, c'est une perte des avantages acquis sur le plan évolutif et sur le plan de notre interaction avec notre milieu. Je peux le dire autrement, nous aurons de moins en moins de moyens de nous protéger du surgissement de divers aléas qui peuvent être pathogènes, on l'a vu, qui peuvent être problèmes climatiques, des limites des ressources, précisément. Hein. Ou, pour parler plus de circonstances internes à la vie des sociétés humaines, de plus en plus de mal à nous défendre contre une agression, par exemple. Ou en tout cas, ces questions-là vont devenir de plus en plus prégnantes, et on le voit déjà. Voilà, donc comment je peux qualifier la décroissance? C'est une perte d'avantages acquis. C'est ma définition, c'est pas forcément celle des décroissants, c'est une définition beaucoup plus politique, beaucoup plus de l'ordre du récit, et on pourra en parler si vous voulez. Mais moi, je préfère être le plus en contact direct avec la réalité du quotidien. Voilà. On va perdre des moyens de payer nos assurances, par exemple. Donc, ce sera de plus en plus difficile, et ça l'est déjà, de rembourser les dégâts sur notre maison quand il y aura eu un incendie ou une sécheresse qui abîme les sols et fragilise les fondations des maisons ou une inondation, etc. etc.
Ouais, c'est vrai qu'on a vu un tremblement de terre au Maroc. Là, pour l'instant, on a les moyens de reconstruire, d'envoyer des secours. Mais est-ce que dans le futur, on aura les moyens de le faire? Ça, c'est vrai que c'est un vrai, vrai sujet.
Oui, c'est pas la question, la réponse. On a la réponse à ce sujet. On aura de moins en moins de moyens de réparer ce qui aura été détérioré au fil du temps. Comment ça va se passer politiquement et économiquement? Ça, c'est beaucoup plus ouvert.
Alors justement, il y a quelque chose qui est intéressant dans votre discours, et je pense que c'est important de rappeler, c'est que vous dites que tout le monde sera concerné. Même les gens qui se disent « Non, mais moi, je vais prendre des chèvres dans le Larzac et je vais mettre une éolienne, etc. Je vais être épargné. » Ou les gens qui se disent « Non, mais moi, je suis une entreprise dans tel domaine, je vais être épargné. » Ou ce qui est intéressant dans votre discours, c'est que vous dites que tout le monde, on ne pourra pas y échapper parce que c'est tellement global et c'est un système, quoi.
Oui, alors là, on touche à quelques éléments de cette théorie écologique de l'esprit que j'ai effleuré tout à l'heure. Nos cultures, c'est-à-dire ce qui met en mots et en récit notre rapport à notre milieu et à l'autre en général, à l'autre humain par exemple, nos cultures, particulièrement en Occident, nous ont façonnés et on a tendance à toujours dire que les problèmes sont dissociés les uns des autres, dissociables les uns des autres, avec des causalités différentes et que pour certains problèmes très identifiés, il y a une cause unique. Voilà, on a tendance à réfléchir de façon très linéaire, avec une cause unique, un problème, et puis une solution, parce que jusqu'à présent, ça fonctionnait bien d'avoir des sociétés très puissantes, qui avaient beaucoup d'énergie, elles détectaient un problème dans le milieu, elles faisaient appel à des ingénieurs, des politiques, des économistes, ils réfléchissaient au problème, ils trouvaient une solution, on la mettait en place, et c'était résolu, on passait à autre chose. Donc ce fonctionnement cognitif très linéaire, monocausal, c'était efficace. Mais c'est pas la réalité des problèmes. Les problèmes sont toujours interconnectés entre eux. On a eu l'illusion qu'ils ne l'étaient plus parce qu'on était très puissants. On pouvait les isoler des uns des autres. Par exemple, le système de santé pouvait être isolé du système de défense militaire d'un pays. On traitait les deux dans des ministères différents. On voit sur le terrain en Ukraine qu'on ne peut pas du tout traiter les deux questions indépendamment l'une de l'autre. Parce qu'elles sont forcément reliées par le truchement, par exemple, d'une agression d'un pays adverse, qui met en fragilité la capacité du pays lui-même à entretenir son système de santé et en particulier à soigner ses victimes de la guerre. Et donc on voit bien que tous les problèmes peuvent être interconnectés quand il y a une crise, une situation critique. Et donc on va voir ressurgir tous les liens entre tous les différents problèmes auxquels on se confronte désormais, des liens qu'on avait oubliés. Et ça va changer notre façon de penser le réel, forcément. Et en particulier, cette décroissance, elle a tendance, pour revenir à elle, elle a tendance à fonctionner un peu de la même façon. On a un problème avec le capitalisme, on a un problème avec le PIB, donc on va mettre d'autres mots en face, d'autres façons de les traiter, puis on va dire que c'est bon, ça marche, puisqu'on a substitué les mots par les autres, et hop, on a trouvé une nouvelle trajectoire, on la met en œuvre, et c'est bon, on a trouvé la solution. Pour moi, je reviens un petit peu là-dessus, pour la décroissance telle qu'elle s'annonce, elle me semble plutôt être une articulation facilitatrice pour le capitalisme de demain, c'est-à-dire qu'on est embarrassé par le PIB parce qu'on voit bien qu'il ne va pas pouvoir croître à l'infini, puis qu'il est quand même trop connecté aux ressources, à l'énergie, et c'est un indicateur qui fait trop de liens. Donc on va le mettre de côté, puis on va casser ce thermomètre, et on va mettre un autre indicateur qui sera beaucoup plus sympathique, c'est le bien-être. Et on va mesurer le taux de satisfaction d'une société avec un indicateur de bien-être. On va questionner les gens, on va leur demander s'ils sont en bonne santé, s'ils sont heureux, etc. déconnecté de la matérialité, déconnecté de la dépendance à la production de richesses, déconnecté de l'industrie, etc. etc. Donc voilà, on rentre dans un monde où les récits vont, à mon sens, essayer de prolonger les moyens qu'on a eu de couper les informations, d'oublier qu'on était en train de consommer plein d'énergie, beaucoup trop d'énergie, en séparant les problèmes les uns des autres, pour trouver des systèmes compatibles avec la décroissance, mais qui continuent à entretenir cette séparation entre les entités qui nous contraignent. Mais ça risque de nous illusionner encore plus et nous faire croire que le bien-être, c'est suffisant pour vivre. Et ben non, en fait, le bien-être, c'est pas un indicateur de capacité d'un pays à se défendre contre une agression, par exemple.
Alors justement, je sais que vous n'aimez pas parler de solutions, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui va arriver? Donc si on ne mesure plus le PIB ni la croissance, si on ne va pas en fait s'intéresser au sentiment de bien-être de la population, qu'est-ce qu'on va faire en fait? C'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut anticiper le choc à venir, se préparer et se dire, ok, c'est comme dans une voiture, on voit le mur qui arrive. Pour l'instant, on voit bien que le mur se rapproche de plus en plus et on n'a plus la marge de manœuvre pour l'éviter. Là, la question, c'est juste, est-ce qu'on va taper vraiment fort ou on va ralentir un tout petit peu? C'est un petit peu le sujet.
La première chose à faire, c'est de comprendre le problème. Poser les bonnes questions, comprendre le problème. Si on n'a pas posé les bonnes questions et pas compris le problème, on ne va pas pouvoir y apporter de bonnes réponses. Donc le problème, il est intégré, il est complexe et global et on ne peut pas le découper en sous-parties. Voilà. Première chose à déconstruire. Si on fait ça, on est sûr de traiter un truc qu'on aurait été satisfait dans un coin de notre société, et puis en fait, tout le reste va s'effondrer autour et ça ne marchera pas. Ça, c'est la première démarche. La deuxième, ce que permet cette première démarche, c'est d'éviter de faire des erreurs. Alors, le sujet que je travaille le plus en ce moment, c'est la transition énergétique. La transition énergétique a été particulièrement pensée de façon linéaire, en silotée, exactement, et en considérant, comme l'économie jusqu'à présent l'a enseigné à tous ses étudiants au cours du XXe siècle et encore maintenant, comme un solutionnable par la substitution. En économie, on apprend que le travail, le capital et les ressources, tout ça, c'est substituable. S'il y a moins d'un truc, on prend plus dans l'autre. Et puis, tout continue à bien fonctionner. Le rapport de prix permet de la régulation du marché. Et tout est substituable en soi. C'est la théorie. Sur le terrain, ça ne marche pas comme ça. Et la transition énergétique a hérité de cet imaginaire que tout était substituable et on a pris deux choses qui étaient ensilotées chacune dans leur domaine, c'était les hydrocarbures d'un côté, dont il faut se passer, et puis les énergies dites de substitution, le vent, les rayons électromagnétiques du soleil et l'énergie d'origine nucléaire. Et on a dit, puisque tout est substituable, il suffit de passer d'un système à l'autre. Alors ça marche en théorie, je ne vis pas en théorie, vous non plus, je pense, dans la pratique, et pour ce que la science en dit, on ne sait pas du tout s'il est possible de faire fonctionner une société thermo-industrielle avec une autre énergie, une autre source d'énergie qu'une énergie qui fournit de la chaleur. Le vent ne fournit pas de chaleur, en tout cas pas lui, il faut le convertir. Le rayonnement électromagnétique ne fournit pas de chaleur, il faut le convertir, etc. Le nucléaire non plus. Voilà, donc, sans en développer plus, on a répondu de façon artificielle avec notre cognition du passé à un problème, on a cru y répondre, mais comme on a travaillé cette question de façon linéaire et en siloté, on est convaincu de quelque chose qui en fait ne repose sur aucune... alors là c'est la réalité, puisque j'ai beaucoup travaillé cette question depuis 10 ans, je n'ai pas trouvé de démonstration de réalisabilité d'une substitution des énergies. Un peu de la même façon qu'en économie, on n'a jamais démontré que tout était substituable tout le temps, en toute occasion.
Ouais, c'est vrai que vous avez tout le temps cette question-là dans vos conférences. Il y a un projet qui disait on va mettre des éoliennes dans le désert, je ne sais plus si c'est 100 km carrés ou 10 km carrés, enfin X centaines de mètres carrés d'éoliennes, et que ça suffirait à alimenter la Terre entière. Sauf que vous démontrez bien dans toutes vos interventions que ce parc d'éoliennes va tomber en panne. Et dès le départ, en fait, ben, il faudra de l'énergie, certes, mais il faudra aussi aller extraire des minéraux, il faudra des camions pour aller, il faudra des bateaux pour y aller. Et que finalement, petit à petit, si on avait ce parc d'éolien-là, ça permettrait de tenir pendant un certain temps, mais il se rétrécirait, et on n'aura pas trouvé la solution.
Alors voilà, d'abord, je ne démontre rien, en fait, je n'ai fait que ressortir la littérature en sciences de l'énergie qui rappelle ce que veut dire un système physique qui est soit auto-organisable, dissipatif, on dit, soit tout à fait passif, c'est-à-dire qu'il ne fait qu'être traversé par de l'énergie, mais qui n'a pas de capacité à s'organiser par lui-même. voilà, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques et les centrales nucléaires sont capables de s'auto-organiser, c'est-à-dire de profiter de l'énergie qui les traverse pour s'auto-entretenir. A contrario de toute l'industrie des hydrocarbures qui, grâce à l'action humaine, bien sûr, peut entretenir ses moyens, ses propres moyens, grâce à l'énergie qui la traverse. En résumé, on peut fabriquer une centrale thermique avec du charbon, on ne peut pas fabriquer une éolienne avec du vent. Voilà. Donc je ne vais pas plus loin, le reste est dans mes autres interventions, merci de les évoquer. C'était pour répondre à la question de que faire. Alors moi, je réponds un peu par défaut. Je dis, au moins ne pas faire d'erreur. Pourquoi ? Parce que s'engager dans des perspectives d'adaptation dont on ne sait pas du tout si elles sont valides, parce qu'on n'en a pas la démonstration, c'est un risque en soi. La transition énergétique est un bon exemple parce qu'en plus, elle est momentanément illusoire parce qu'il est vrai que les éoliennes, ça fait de l'électricité. Et que quand on branche son téléphone pour le recharger, bah, il est rechargé par une électricité qui provient d'une éolienne. Donc ça, c'est une réalité physique. Mais ça ne dit rien, par ailleurs, de la capacité de la société dans son ensemble à fonctionner, à se réparer et à s'auto-entretenir grâce à l'énergie du vent. Voilà. Une autre question. Donc on a l'impression que ça peut marcher. Dans la réalité, on ne sait pas du tout. Et si on ne prend pas plus de précautions, on va se retrouver avec des systèmes d'adaptation. Là, c'est l'énergie, mais ça pourrait être d'autres dans l'agriculture, dans l'économie, dans la gestion de l'eau, c'est très très important. Si on fait des erreurs aujourd'hui parce qu'on ne se sera pas appuyé sur une véritable connaissance scientifique, on va se retrouver avec un mur qui va surgir très vite, très fort. Évidemment, en particulier, le mur de l'énergie. Voilà, donc ça, c'est mon principal conseil. Je suis un peu embarrassé parce que effectivement, je ne suis pas prescripteur. Vous le rappelez, je n'utilise jamais le terme solution. Par contre, je pense qu'en soi, ne pas faire d'erreur est une bonne prescription.
Oui, c'est vrai. Alors, justement, si on revient un petit peu sur les causes racines, souvent, en fait, ce qu'on entend dans les discours, c'est la publicité, c'est le marketing qui est le mal. En même temps, s'il y a d'autres... il y a plusieurs livres, comme par exemple Le Bug Humain, qui disent, voilà, c'est un petit peu dans nos gènes. Voilà, qu'est-ce qui est responsable en fait de ce problème actuellement et comment justement on arrive à le contrer, parce que c'est vrai que vous l'évoquez de temps en temps, comment peut-on changer nos habitudes?
Alors la question du bug humain est très importante parce que là ça rejoint les biais cognitifs que nous avons investis pour penser la transition énergétique. On a tendance à penser en ce qui s'appelle un locus interne, c'est-à-dire que les causes des problèmes ou les propriétés de l'ensemble des problèmes sont à l'intérieur de l'objet qu'on pense. Les éoliennes sont capables de s'auto-entretenir parce qu'on leur attribue des propriétés magiques, on pense qu'elles sont vraiment vivantes, super, de l'énergie les traverse, donc à partir du moment où il y a de l'énergie, on peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est une projection tout à fait animiste, je le développe dans certains travaux, et c'est une erreur. On pense que tout ce qui est possible pour quelque chose est contenu dans ce quelque chose. C'est une construction très occidentale où on dit à l'individu, tu es libre et tu es capable de décider de tout par toi-même. C'est vraiment la cause des phénomènes vient de soi. Dans d'autres cultures, ou même des occidentaux aussi, peuvent développer ce type de pensée, les causes sont beaucoup plus partagées entre le monde intérieur, le locus interne, et le monde extérieur, le locus externe, où là on prend en compte des hétéronomies, des choses qui nous dépassent, qui sont plus grandes que nous. Autrefois, dans d'autres cultures, on parlait de Dieu, de fatalité,
on croit à la science. C'est ce que je voulais. Souvent, les gens qui me disent ça, mais de toute façon, la science va trouver une solution.
Voilà, donc on pense que ce qui vient de nous, c'est-à-dire la science, la connaissance, la compétence technique, va trouver la solution. Mais sauf que la science, comme on le disait tout à l'heure, elle est contrainte par des lois qui n'ont pas été écrites par la science. De fait, la science est faite pour essayer de découvrir ces lois. C'est son travail initialement. C'est pas pour faire une transition énergétique, c'est pas son travail. C'est pas sa mission à la science au départ. Ça s'appelle la technique, ou la science associée à la technique, ça c'est autre chose. C'est pas de la recherche fondamentale, etc. Voilà, donc nous, si on veut essayer de diagnostiquer les causes de nos échecs encore aujourd'hui, on peut contrecarrer l'argument de Sébastien Boller, puisque vous l'évoquiez, qui est de dire que tous nos problèmes viennent du striatum, de cette petite zone du cerveau qui génère plus ou moins de dopamine et dont est dépendante notre satisfaction, notre plaisir. Et nos sociétés seraient des sociétés qui agiraient beaucoup sur ce striatum en envoyant beaucoup de sollicitations, en proposant beaucoup de sollicitations plaisantes à court terme en particulier. Donc les réseaux sociaux, la surconsommation, la jouissance, voilà, la, la possibilité d'avoir tout très vite grâce à Amazon, etc. Tout ça est censé solliciter notre striatum plus que d'autres systèmes économiques, et ça serait la cause de nos problèmes. Mais ça, c'est alors d'abord le fait que le striatum soit la cause de quoi que ce soit, c'est tout à fait hors de la science, puisque la science n'a jamais dit ça. Le striatum est intégré au cerveau, et le cerveau est un système complexe. Donc on ne peut pas attribuer la cause du fonctionnement ou des travers de notre cerveau au striatum, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est tout à fait débunké sur le plan scientifique. Et ce serait peut-être même le contraire qui nous aurait fait arriver à ce problème écologique d'aujourd'hui. Ça serait une capacité qui, elle, est montrée comme étant exclusive à l'humain, ou en tout cas beaucoup plus développée chez l'humain. C'est la capacité à anticiper le long terme et à programmer des stratégies complexes pour obtenir un plaisir sur un temps plus long. Donc, je rappelle, le striatum, c'est l'idée qu'on obtient des plaisirs rapides et qu'on passe très vite d'un plaisir à l'autre parce qu'on a des décharges de dopamine. Et ça, en fait, c'est comme le dit d'ailleurs paradoxalement Boller dans son livre, la plupart des êtres vivants qui ont un système nerveux plus ou moins élaboré ont un système un système du plaisir, de la satisfaction à court terme. C'est comme ça que l'ensemble du vivant a ce petit système intérieur. Et nous, l'humanité, on a un autre système qui a autre chose comme fonction, c'est de réguler, en particulier le fonctionnement de ce striatum, pour éviter justement que nous soyons soumis à des décisions de court terme, en permanence, et à des plaisirs, des petits plaisirs de court terme. Nous avons une fonction de régulation qui permet de planifier, anticiper, hiérarchiser et obtenir des plaisirs plus grands, mais à plus long terme. C'est ce qui, dans la littérature que je pourrais, il est présent dans mes livres, c'est ce qui, à mon sens, est beaucoup plus responsable de l'état de notre rapport à notre milieu, parce que c'est cette fonction qui a permis de penser des stratégies beaucoup plus complexes. Par exemple, l'agriculture. Par exemple, il faut planifier, il faut hiérarchiser, il faut penser que quand on plante à un moment, on va récolter beaucoup plus tard. Et donc, il faut savoir attendre, ce que le striatum ne permet pas de faire. C'est qu'il n'a pas cette fonction-là, justement. Donc, la communication entre le striatum et notre aire frontale, ici, a permis de réguler nos fonctions cognitives et permis d'attendre patiemment. Mais le problème, c'est que en développant des stratégies plus complexes et plus long terme pour un plaisir plus grand, on a aussi beaucoup plus eu la capacité d'exploiter les ressources. Donc, à contrario de la thèse de Boller, le striatum ne serait pas probablement pas la cause de notre problème d'aujourd'hui. Il serait que nous sommes capables de développer des sociétés hyper complexes avec une hyper emprise sur leur milieu qui se projettent dans le temps long et qui donc ont développé par le passé et encore maintenant des capacités vraiment surdimensionnées par rapport à ce que les écosystèmes pouvaient supporter. Est-ce qu'on va pouvoir changer ça? Moi, j'en sais rien. Est-ce qu'on va pouvoir réapprendre, alors pas forcément à désinvestir la planification et la hiérarchisation de la planification, mais peut-être à la penser autrement, et on va venir, je pense, au thème du livre. C'est-à-dire qu'il va falloir continuer à solliciter notre cerveau préfrontal pour éviter qu'on ait des plaisirs de court terme et qu'on planifie, mais cette fois en évitant toutes les stratégies qui génèrent trop de croissance ou de la croissance tout court. Il va falloir planifier, et c'est un défi immense parce que là, pour le coup, on sait aussi que notre cerveau est bien handicapé pour planifier en négatif. On a ce qu'on appelle, notre cerveau a une forme d'aversion à la perte.
Ça, c'est vrai.
Voilà.
Et c'est un des biais du marketing, justement. C'est taper là où ça fait mal. Et une personne, on a fait plein d'études, disant qu'elle sera plus enclin à acheter quelque chose. On dit, vous ne perdrez pas vos trucs, que vous allez gagner ceci.
Voilà. Donc, cette aversion à la perte fait que pour une satisfaction comparable à un plaisir, voilà, la même quantité de satisfaction comparable à une même quantité de plaisir, le déplaisir aura un effet beaucoup plus négatif que le plaisir aura eu un effet positif sur nous. On va préférer un petit plaisir
à un risque.
Vous
me donnez 10 euros et si vous perdez, je vous donne, vous perdez 100 euros. Mais si vous gagnez, il y a vraiment des études qui ont été mises là-dessus. C'est vrai que la version risque est très, très importante.
Et la version risque est très importante et il faut aller à l'encontre d'elle. C'est-à-dire qu'elle... C'est beaucoup plus elle qui oriente nos comportements vers le statu quo, l'homéostasie et éventuellement la croissance, c'est-à-dire l'acquisition d'avantages, que le striatum ou autre chose. C'est plutôt cette aversion à la perte qui, elle n'en est pas, alors pour reprendre un peu l'évolution, elle n'est pas systématiquement ce qui oriente nos comportements. Il y a des sociétés humaines qui ont très bien pu se maintenir dans un état relativement stable et qui n'ont pas cherché à envahir leur milieu, détruire leur milieu. C'est évident. Mais lorsqu'on est contraint de l'extérieur, lorsqu'il y a une pression, lorsqu'on a des injonctions, alors là, évidemment, la publicité, le marketing viennent jouer un rôle, évidemment. Lorsqu'on a une pression à l'action et qu'on a une alternative entre un petit plaisir ou un petit déplaisir, oui, tendanciellement, nous allons choisir le petit plaisir, évidemment. Donc, cette aversion à la perte, c'est juste le choix par défaut. Alors qu'on sait rationnellement que le petit déplaisir à court terme pourrait nous apporter un plus grand plaisir à long terme. Et bien, ça, on n'est pas naturellement enclin à le faire. Il va falloir lutter contre ça.
Ah, et puis, on parlait aussi de changer un petit peu les mentalités, donner de nouveaux imaginaires. C'est un petit peu le nom à la mode. C'est convaincre les gens aussi de se dire, la consommation, le toujours plus, ce n'est pas forcément ce qu'il y a. Et transformer, en fait, moi, ce que je parle beaucoup, c'est transformer les valeurs. On voit bien sur les jeux télé, etc., c'est je gagne des produits, je gagne de l'argent. Les influenceurs, c'est bling bling, je vais à Dubaï, j'ai des voitures. Le symbole de la réussite, et c'est vrai qu'on l'a dans le livre de Père riche, père pauvre de Guy Kawasaki. Et c'est vrai qu'il dit bien son père pauvre qui n'a pas réussi dans la vie. Il a été prof, il a aidé les gens, etc. Mais il n'a pas de moyens, tandis que le père riche qui a des voitures, des machins, etc., des propriétés, c'est lui qu'il faut prendre un exemple. Donc en fait, c'est peut-être une inversion des valeurs ou revoir les valeurs. Mais ça, c'est quelque chose qui va être super compliqué à faire. Ça ne se fera pas en un jour ni en 10 ans.
Je vous rejoins complètement. Je pourrais d'ailleurs vous recommander le travail de Vince Canté sur sa chaîne Limite, qui interroge des profils très, très, très variés, très différents de personnes qui s'inquiètent de l'avenir et qui lui-même a un parcours, donc Vince Canté, de consommateur avide, de profiteur, de jet-setter, et il a fait, c'est un repenti, comme on dit, et son parcours est très intéressant, et aujourd'hui, il met à profit son propre parcours pour faire témoigner d'autres personnes. Donc voilà, je salue Vince au passage. La question des valeurs, elle est essentielle, évidemment, et c'est peut-être la seule chose qui nous permettrait de dépasser les frustrations matérielles. Et donc, je vous rejoins, je pense que viser des valeurs nobles permettrait de supporter. La frustration va être réelle. Je tiens à ne pas euphémiser quoi que ce soit. La frustration va être réelle et il va falloir la traverser en s'appuyant sur des récits historiques de civilisation, de société, d'humains, de communautés qui ont traversé des moments difficiles et qui les ont surmontés. Et bien, il va falloir s'inspirer de ces moments-là qui sont moins dans les livres d'histoire que les victoires des guerres ou les dates d'apparition d'empires ou de républiques, parce que c'est pas quelque chose qu'on note facilement, les moments de frustration. On écrit moins de textes, on fait moins de statuts, on prend moins de on laisse moins les frustrations dans l'histoire pour les descendants de nos sociétés. Pour autant, l'humanité en a traversé régulièrement de très grandes, des famines, des sécheresses, des guerres terribles, et tout ça, c'est des moments que nous avons traversés collectivement et pour lesquels les valeurs ont été extrêmement importantes. Et ces moments-là ont été traversés parce qu'on avait une perspective. Alors moi, j'aime bien parler de vergogne. La vergogne, c'est une valeur, une forme d'émotion qui a été oubliée, alors qu'elle était cardinale dans certaines sociétés du passé. Et la vergogne, c'est la crainte d'une honte future. La vergogne, c'est craindre que son action aujourd'hui soit jugée demain et que demain, on ait perdu la face, pour prendre un terme plus contemporain. Et cette crainte-là, elle se fait dans l'instant pour une projection dans l'avenir. Et ça, à mon sens, c'est une valeur qui permet de réguler les décisions qu'on prend dans l'instant.
Ouais, penser à nos enfants, penser au futur. Mais ce que tu dis est vraiment, en parlant, parce que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps un reportage sur Arte qui était sur le métro de Moscou, donc qui a été construit, et c'est vrai que les gens, ils étaient vraiment au début du communisme, etc. Ils étaient vraiment, c'était une vraie mission, ils écrivaient, ils étaient mis en valeur, ils étaient valorisés dans le journal, dans la Pravda, etc. Ils écrivaient des livres, etc., etc. Même si c'était dur, s'il y avait des morts, ils étaient vraiment au taquet, ils avaient conscience d'avoir une mission et ils étaient emportés là-dessus. Et quand il y a eu la guerre, le métro de Moscou, tout d'un coup, est passé derrière, et il y a une espèce de spleen juste derrière, et c'est vrai que pour eux, c'était pas facile, mais typiquement le genre de choses. Alors justement...
Une note en passant, parce que c'est très important. Lorsque je dis qu'il faut investir des valeurs et des récits différents et déconstruire un petit peu notre fonctionnement cognitif, il est très important de ne pas de faire en sorte que les récits de demain et les valeurs que nous allons exploiter ne servent pas à masquer la misère. Et ils ne servent pas à instrumentaliser des moyens ou des justifications pour laisser les personnes en difficulté dans leurs difficultés au profit de quelques-uns qui s'en sortiraient mieux. Ça, c'est quelque chose à éviter absolument. Ce sera le nerf de la dislocation de nos sociétés, enfin la cause de la dislocation de nos sociétés, c'est ce que j'appelle le collapse washing, c'est-à-dire que au nom de récits vertueux et positifs sur l'écologie, qui sont basés sur absolument aucun constat déjà et aucune base scientifique rigoureuse, on pourra discuter des heures sur la production scientifique dans l'écologie, ça c'est très important de ne pas vendre du rêve, parce que c'est toxique. On entre dans un monde où ce qui va être positif dans le discours d'un marketeur, par exemple, c'est de vendre de la réalité. En tout cas, c'est ce que moi je crois et c'est ce que j'essaye de faire. Aussi bien ou aussi mal qu'on comprenne la réalité, je pense qu'il faut partir d'elle et ensuite construire un discours auquel on permet à l'autre d'accéder. Voilà. Si on essaye de masquer les difficultés qui proviennent de la réalité, on va mentir à son prochain. Et on va générer des causes de conflits, de problèmes, de frustration, d'amertume demain. Et ça, à mon sens, c'est très problématique. C'est même dangereux.
Bah justement, on va peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais quels vont être les secteurs qui vont, à court terme, le plus souffrir ? Est-ce qu'il y aura des secteurs qui vont émerger ? Que doit faire une entreprise qui va vraiment être concernée ? Je parle du tourisme, même les coachs. Hein, comme on l'a dit, la société moderne est là maintenant pour gérer une complexité qu'on a nous-mêmes créée. Quand il n'y aura plus de complexité, qu'est-ce qui va se passer justement pour, est-ce qu'elles doivent revoir, à court terme, c'est vrai que le rôle du marketing, ça va être revoir les offres, essayer de les optimiser pour essayer de convaincre en fait les gens qui auront encore un peu les moyens. Mais qu'est-ce qui va se passer pour ces secteurs, quels sont ces secteurs ou tous les secteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'on peut travailler à la résilience?
Alors, premier point, je n'en ai aucune idée. Moi, j'ai des préférences à titre personnel sur le type de société dans lequel je veux vivre. Voilà. Mais ce sont des préférences. Mais comme je ne peux pas me baser sur mes préférences pour organiser ou pour être prescripteur pour l'ensemble du monde, je ne me permets pas de le faire. Donc, savoir quel secteur pourra ou devra mieux s'en sortir que d'autres, bah oui, je préfère que ce soit le service public, je préfère que ce soit le distributif pour les plus démunis, évidemment, et je préfère que ce soit les services sociaux, la sécurité sociale, etc. Évidemment. Maintenant, je ne suis pas naïf, et je sais que tous ces services pour le commun ont un coût à la société sur le plan matériel, et que donc, en proposant ces services ou en maintenant ces services, on exerce une pression sur la productivité, sur l'industrie, sur les ressources, etc. Donc, je ne peux pas trancher sur ce qui devra ou pourra dominer ou surgir ou s'adapter mieux ou plus vite dans un monde en décroissance. Je ne peux pas le faire. C'est parce que personne ne peut le faire. Ou si on le fait, ça n'est qu'en fonction de ses préférences personnelles. Voilà, je suis transparent là-dessus. En revanche, et c'est très, très important, vous avez évoqué, vous avez nommé la résilience. La résilience, c'est un problème en soi. Parce que la résilience, elle est quelque part intrinsèque à nos sociétés qui ont des capacités à s'organiser devant la difficulté. C'est une des propriétés des systèmes dissipatifs que j'ai évoqués tout à l'heure. Lorsqu'on les perturbe, ils ont une capacité à résister à la perturbation. Ils retrouvent une forme après la perturbation. Ils sont résilients. Très bien. Moi, je préfère que nos sociétés soient résilientes. Évidemment. Parce que j'aime pas les crises et j'aime pas souffrir. Bon, c'est assez trivial. Le problème de la résilience, c'est que si on a un objectif écologique de long terme, plus de résilience de nos sociétés, c'est pas beaucoup plus d'écologie demain, si ce n'est moins d'écologie demain. Alors, ça, c'est très important. Pour en revenir à la transition énergétique, aujourd'hui, elle se dessine comme une transition résiliente. C'est précisément écrit dans les rapports du GIEC. La transition énergétique doit être résiliente. Et si la production ou l'approvisionnement en énergie de nos sociétés est résilient, on en aura toujours assez et aussi longtemps que possible pour exploiter nos milieux et émettre du CO2. La transition énergétique résiliente, c'est pas une substitution des énergies, c'est pas la même chose. Donc la résilience, c'est un concept qu'il faut investir avec beaucoup de prudence, en sachant que si on est très résilient, on prolonge tous les travers matériels des sociétés qu'on souhaite résilientes.
Alors, Donc justement, comment on peut inspirer, convaincre un chef d'entreprise de se dire, voilà, je vais faire une réorganisation radicale et qu'est-ce qu'il devrait faire? Parce que pour l'instant, la RSE est sur toutes les bouches. Hein. C'est, que ce soit à la télé, que ce soit dans les entreprises, la RSE, c'est, voilà, je commence à travailler un petit peu mon éco-responsabilité. Mais pour moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Et comment on peut convaincre quelqu'un de dire, maintenant, attends-toi à une décroissance, anticipe ça. Revois ton offre, revois ton entreprise et qu'est-ce qu'il devrait faire? Parce que l'une des choses que vous mettez en avant le plus, c'est former les gens, à favoriser l'autonomie, apprendre de ses erreurs, oser. Comment on fait pour inspirer les gens et qu'est-ce qu'il faut faire?
Je vais parler d'habileté. D'habileté parce qu'il va falloir faire des arbitrages extrêmement subtils. Et ça, je pense que c'est, ça l'est pour moi, c'est une motivation en soi, c'est-à-dire faire des arbitrages les plus intelligents, c'est pas un gros mot, les plus intelligents et subtils et habiles soient-ils, pour limiter la casse sociale, la casse économique, etc., pour limiter tous les effets indésirables de cette grande décomplexification vers laquelle nous allons. Ce que nous allons vivre demain, c'est une trajectoire. Une trajectoire qui ne peut pas être connue, comme je le disais, mais qui sera, à partir d'un moment, orientée vers la baisse des organisations globales de nos sociétés. Au cours de cette trajectoire, il va falloir prendre des décisions et elles vont être indexées sur maximiser la complexité des organisations, par exemple d'une entreprise, par exemple investir dans, je ne sais pas moi, des systèmes technologiques très complexes qui ont besoin de beaucoup de ressources, etc. C'est une option. Et puis, il va y avoir une autre option, c'est celle de désorganiser, ou en tout cas d'anticiper la désorganisation et faire des choix économiques vers des options plus simples, peut-être des objets plus low-tech, des services de plus grande proximité, etc. Donc, ces deux types de choix, soit vers le moins, soit vers le haut, ont tous les deux, s'ils se prolongent trop, des effets toxiques ou des effets délétères pour ceux qui les prennent. Si on fait trop tôt des choix de simplification pour une société, si on les fait trop tôt par rapport à ses rivaux, on risque soi-même de ne pas tenir le coup. Si on fait des choix de complexité trop longtemps pour une société X ou Y, dans un domaine X ou Y, on risque soi-même de se fragiliser à long terme, parce que la complexité, dans un monde qui a de moins en moins d'énergie, c'est quelque part se tirer une balle dans le pied à moyen ou long terme. Ce qui peut motiver les patrons, les gestionnaires d'entreprise, vos clients peut-être, c'est cette intelligence au profit du commun de savoir prendre la décision qui fonctionnera le mieux, le plus longtemps, à grande échelle. Vous allez me dire, mais oui, mais là on retombe sur la résilience. Oui, et ça c'est notre tension existentielle, mais elle n'est pas nouvelle, et ça c'est très important. À chaque fois qu'une communauté de chasseurs-cueilleurs, de néo-agriculteurs, civilisation forestière, peu importe, agroforestière, à chaque fois que ces sociétés ont dû faire des arbitrages entre plus d'existence mais plus d'impact, moins d'existence mais plus de prise de risque, ils étaient soumis à cette tension existentielle. Évidemment, on n'arrive pas au 21e siècle avec une gestion de l'existence inédite qu'aucun humain n'aurait connue jusque-là. Et donc, tous les arbitrages qui ont été faits et qui font que les humains ont survécu sont ceux qui ont été les meilleurs entre trop de complexité et pas assez de complexité en fonction du contexte. C'est ça l'intelligence collective qu'il va falloir mettre en œuvre. J'insiste sur le collectif parce que si on reste de toute façon dans son coin, on participe à la dislocation des communs et du système. Mais alors, je crains que ce ne soit pas assez motivant pour un marketeur, ce que j'énonce là. Mais je ne vais pas, moi, motiver de façon artificielle votre public, vos lecteurs ou vos clients. Je ne peux pas faire ça, ce serait malhonnête. Donc, je vais les motiver avec des choses qui leur permettront de s'adapter concrètement à un monde contraint.
Alors, justement, on arrive à la dernière question. C'est quel serait votre conseil numéro un ou deux, si vous voulez, à donner à un marketeur maintenant ou à un chef d'entreprise? Pour moi, c'est les mêmes personnes. Qui veulent anticiper cette décroissance. Ce serait quoi le conseil numéro un qu'il faudrait avoir en tête? Et ça sera vraiment ma dernière question, ce sera plus cet entretien.
Donc, dans tout ce qu'on a évoqué jusque-là, il y a eu une autre tension qui n'a pas été exprimée, mais qui est celle entre la compréhension du réel de la façon la plus brute qui soit, et parfois la plus difficile et frustrante, et les croyances qu'on développe après avoir tenté de se confronter au réel. Aujourd'hui, les croyances, il est sûr qu'au cours de l'histoire de l'humanité, les croyances, elles ont été utiles parce qu'elles sont porteuses, elles sont motivantes, en particulier les croyances en la liberté, en la croyance en la croissance infinie pour nos modèles économiques. Ces croyances-là, elles ont eu leur utilité, entre guillemets. Enfin, elles ont eu leurs effets, en tout cas. Mais aujourd'hui, elles sont contre-productives, elles ne correspondent plus à ce qu'on éprouve de la réalité. Donc, là, j'ai une prescription. Déconstruisez vos croyances, questionnez-les, interrogez-les et essayez de voir où elles essayent de vous mener contre votre gré et contre votre intérêt, en particulier intérêt à long terme. Et ça, c'est une motivation en soi, parce que c'est un vrai défi. Les croyances, c'est les choses qu'on est le moins capable de déconstruire par la volonté.
Mais ça serait quoi de manière concrète les croyances? La consommation infinie,
Par exemple, c'est continuer à faire des projections d'entreprise sur une croissance infinie. Pardonnez-moi, mais c'est idiot.
Oui, ça.
C'est idiot, c'est une idiotie au sens étymologique du terme. C'est-à-dire que ça
ne. Il y a des limites physiques, à un moment donné, on ne peut pas croître de manière indéfinie. C'est comme les arbres n'atteignent pas le ciel. À un moment donné, il y a une tempête, il y a un truc qui se passe et boum, l'arbre il tombe.
Voilà, et cette croyance-là, comme elle nous traverse tous et qu'elle traverse beaucoup le monde du marketing, pardonnez-moi, encore aujourd'hui, et j'espère que vos travaux seront entendus, eh bien, sa toxicité doit être diagnostiquée pour agir pour le mieux, pour le commun et pour l'avenir. C'est une certitude.
Ok. Merci Vincent pour cet entretien qui était très riche, très complet. Si on veut en savoir plus sur vous et vos différents ouvrages, l'association Adrastia, qu'est-ce qu'on fait? On va sur quel site internet et on va sur quelle chaîne YouTube?
Alors, les sites internet sont à mon nom, la chaîne YouTube est à mon nom, l'association Adrastia, il suffit de taper son nom. Je l'ai créé en 2014, je n'en suis que le président d'honneur aujourd'hui, mais je suis évidemment son actualité. Et un autre site que je peux recommander, qui va être mis en ligne dans les semaines qui viennent, dont l'URL sera, et est déjà d'ailleurs, défienergie.tech, T-E-C-H. Défi énergie en un seul mot, .tech, T-E-C-H. Et c'est un lieu de débat que j'espère lancer pour qu'on avance enfin sur cette transition énergétique.
Merci Vincent, merci pour tous ces conseils, cette vision, et puis bravo pour tout ce que vous faites et à très bientôt.
Merci beaucoup, merci à vous.